Je vais peut-être finir sur la versification, parce que c'est un élément qui n'est pas simple à envisager avec les élèves, dans la mesure où bon, Rimbaud est virtuose sur ces questions, il se réapproprie toutes les avancées, toutes les innovations de ses prédécesseurs, mais on ne peut pas non plus étudier ça avec des élèves trop dans le détail, ça risquerait de réduire pour eux la poésie à l'image d'une mécanique un peu pesante. Ce qu'on peut tout de même remarquer du côté de la versification, c'est la prédilection de Rimbaud en 1870 pour le sonnet, comme le Baudelaire des Fleurs du Mal. Je reprends ici des observations que formule Michel Murat, un beau livre qui s'intitule « L'art de Rimbaud ». Rimbaud donc est un grand praticien du sonnet dès 70 et il en expérimente à peu près toutes les possibilités. Il peut aussi travailler autour d'un corpus strictement de sonnets pour faire observer aux élèves les particularités du traitement. 12 poèmes sur 22 tout de même, et ce sont tous des sonnets qu'on appelle libertins. Libertins, pas par leur thématique, mais parce que leurs quatrains sont construits sur plus de 2 rimes, le plus souvent sur 4 rimes. Très peu d'ailleurs de ces sonnets comportent des quatrains en rimes embrassées, c'est le cas de ma bohème qu'on vient de lire. Tous ces sonnets sont en alexandrin, sauf Rêver pour l'hiver, qui est partiellement en alexandrin, sonnet hétérométrique. Le schéma de rime le plus fréquent, ce sont ces rimes croisées, les rimes croisées qui ne suffisent pas à faire un sonnet dit libertin. Alors pourquoi Rimbaud utilise-t-il le sonnet ? Eh bien pour la satire, la veine satirique de sa production, la caricature avec l'éclatante victoire de Sarrebruck, ce texte qui commence par « Au milieu, l'empereur, dans une apothéose bleue et rose, s'en va raide sur son dédale », un texte qui est intéressant pour... Donc il est intéressant d'étudier la versification aussi, si vous voulez travailler les rejets, les enjambements avec les élèves, en les situant dans le contexte historique de la débâcle, un texte intéressant, l'éclatante victoire de Sarrebruck. Donc, pour la caricature, le contre-blason qu'est Vénus Anadyomène, dans le genre lyrique d'autre part, avec les poèmes du vagabondage, dont on a vu un exemple avec Ma Bohème, dont on pourrait voir un autre exemple avec Au cabaret vert, ou encore avec La Maline. Quant au traitement du vers, ce qui est intéressant, là, des questions des contes syllabiques, c'est, j'en ai donné plusieurs exemples, c'est le traitement de la césure que Rimbaud travaille, auquel il est très attentif, sans aller toutefois à ce qu'il appelle chez Verlaine, aux fortes licences qu'il reconnaît chez Verlaine. Dans une lettre à Isambard, il dit avoir découvert les fêtes galantes. Je trouve toujours le plus beau dans la rencontre entre Rimbaud et Verlaine, c'est que, avant d'être une rencontre charnelle, évidemment très réelle, c'est tout de même un coup de foudre intellectuel. Rimbaud distingue la production de Verlaine, et Verlaine distingue les vers de Rimbaud et l'appelle à Paris parce qu'il aime ses vers. Et donc, Rimbaud est intrigué, choqué même par la césure fausse, en fait, que Verlaine fait volontairement tomber au milieu d'un mot. Et la tigresse, alors il y a ce vers dans les fêtes galantes, et la tigresse épouvantable d'Hyrcanie. Mais si vous voulez le scander en 6-6, c'est impossible. La césure tombe au milieu de épouvantable. Et la tigresse, épouvantable d'Hyrcanie. Rimbaud pratiquera ce type de césure dans les vers de 1872, notamment dans Mémoire, dans Qu'est-ce pour nous, mon cœur. Mais il ne les pratique pas encore en 1870. Il se contente de mettre en relief des mots grammaticaux, ou alors d'assouplir justement la césure en rendant plus difficile la lecture. En 6-6 des vers.